Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Nous avons décidé de parler du Nigeria avec quelqu'un qui y vit et y travaille depuis de longues années. Bonjour Marcel Auchet.
Bonjour.
Marcel Auchet, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Greenelec, qui fournit des systèmes de production d'énergie verte, d'énergie renouvelable au Nigeria. Cette entreprise, vous l'avez fondée après avoir pris votre retraite. C'est une idée saugrenue, pourquoi ?
Bah, écoutez, j'ai eu un passé à Schneider Electric très très dense avec de nombreuses missions tant en France qu'à l'étranger. Ma dernière mission étant était au Nigeria, un pays absolument passionnant et un pays qui a de grandes difficultés, notamment sur le secteur électrique. Et je me suis dit que pas fatigué, peut-être je pourrais contribuer à apporter des solutions simples, innovantes dans ce pays pour leur apporter ce qu'ils n'ont pas en électricité.
On va bien sûr parler de tout ça dans cette émission avec Frédéric Maury. Nous allons vous questionner sur cette puissance africaine, puisque le Nigeria est une grande puissance africaine, sur ce que vous y faites précisément et comment vous le faites. Nous allons vous demander de nous faire partager votre expérience au Nigeria et l'analyse que vous faites de l'évolution économique de ce pays. Une première question de Frédéric Maury pour Jeune Afrique.
Le Nigeria et la France, on a un peu l'impression que c'est pas vraiment une grande histoire d'amour. Les échanges sont relativement élevés en raison du pétrole, mais la sensation qu'on a, vous allez confirmer ou pas, c'est que beaucoup d'investisseurs français, même s'ils s'intéressent à l'Afrique, restent un peu à distance du Nigeria, par crainte, sans doute pour certaines raisons. Comment vous est-ce que vous confirmez cette défiance et comment vous l'expliquez ?
Deux choses. La première, c'est qu'il y a quand même d'excellentes relations entre la France et le Nigeria. Et déjà depuis de nombreuses années, d'ailleurs, il y a des visites réciproques de nos présidents. Le président Buhari est venu tout de suite après son élection en France. Il est vrai que dans le domaine des affaires, sur le plan économique, nos entreprises françaises pensent d'abord au carré africain, la France-Afrique, je pense qu'elle existe encore, et nos entreprises vont beaucoup plus facilement vers des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et tous les pays périphériques, plutôt que vers le Nigeria qui fait peur. L'image de ce pays avec tous les soubresauts concernant Boko Haram, les attentats, etc., font peur à nos entreprises. Et c'est un pays qui n'est pas facile
à pénétrer. Vous pensez qu'ils ont tort, les investisseurs français, de se tenir un peu à distance du Nigeria ?
Personnellement, oui. Pourquoi ? Parce que le Nigeria est quand même la première population sur le continent africain. Ce pays est appelé à devenir la troisième population mondiale d'ici 20 ou 30 ans après l'Inde et la Chine. C'est le premier pays pétrolier du continent. C'est selon la période, le premier ou la deuxième puissance économique avec l'Afrique du Sud. Donc c'est un pays avec lequel il faut compter. C'est un pays qui a un potentiel absolument important et que aucun groupe français ne peut ignorer.
Vous l'avez dit brièvement tout à l'heure, vous étiez d'abord au Nigeria pour un grand groupe français, Schneider. Depuis combien de temps travaillez-vous au Nigeria et comment ça s'est passé cette installation ? Est-ce que aujourd'hui le Nigeria est le même que lorsque vous avez démarré pour le groupe Schneider ?
Alors effectivement, donc je suis arrivé en 2004 au Nigeria, envoyé par le groupe Schneider Electric. qui avait des ambitions sur ce pays. Et pourquoi ? C'est ce que je viens de dire. Schneider Electric a des implantations partout dans le monde et les grands pays sont déjà couverts. Or, sur le continent africain, Schneider Electric a toujours, bien sûr, une présence en Afrique du Sud, en Égypte, enfin les autres grands pays africains, mais n'était pas présent au Nigeria. Et donc ça, c'était la grande lacune, si je puis dire, de Schneider Electric. Ma mission a été d'implanter Schneider dans ce pays, qui avait eu d'ailleurs des échecs dans les années passées. Schneider Electric a tenté à deux ou trois reprises de s'implanter sans succès. Donc cette implantation était très sensible, vue par le groupe. D'un côté, l'ambition d'être présent, de l'autre, d'être prudent, de ne pas prendre des risques démesurés pour le
groupe. Et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi alors ?
Ce qui a fait mon succès dans ce pays, et le succès bien entendu de Schneider Electric, a été de pouvoir adapter les offres et services de Schneider Electric à la spécificité du pays, et non pas de juste transposer une stratégie élaborée à Paris et qui aurait été simplement démultipliée dans le pays. Donc c'est la capacité d'analyse et d'adaptation dans le pays. Et bien entendu, la capacité aussi à trouver des partenaires fiables et crédibles.
Frédéric Maury.
On dit que la réputation du Nigeria, c'est d'être un pays difficile pour les affaires. Vous citiez l'exemple de Schneider qui a eu du mal à s'implanter, mais il y a d'autres groupes français. Il y a Peugeot, par exemple, qui, à une époque, a eu des difficultés. Il y a la Société Générale, dans les années 90, qui a fui le pays. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça, de difficultés d'implantation au Nigeria, même récentes. C'est un groupe sud-africain, il y a un ou deux ans, qui a quasiment périclité dans le pays. Donc, comment vous expliquez ça ? Est-ce que vous confirmez que c'est un pays assez difficile, et quelles seraient les recettes ou les clés d'un succès dans ce pays?
Oui, effectivement, il y a des échecs, c'est vrai, il y a des entreprises qui ont eu de grandes difficultés, mais il y a aussi des succès. Et en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-nigériane, en 2012-2013, avec mes collègues, j'ai organisé des trophées, justement pour mettre en valeur les succès de certaines entreprises françaises, parce que vous parlez de Peugeot, effectivement, Peugeot a eu des difficultés, mais aujourd'hui il cherche à revenir au Nigeria. À côté, on a des entreprises comme Total, comme Lafarge, comme Schneider Electric et bien d'autres qui ont réussi, qui ont eu des succès. Et donc, pour contrebalancer l'image négative de ce pays, j'ai organisé des trophées. Certains qui ont été décernés à Lagos lors d'un dîner de gala de la Chambre de commerce franco-nigériane et ensuite à Paris, au sein de la Chambre de commerce de Paris, où là nous avons pu...
Quelles sont les difficultés qu'il faut franchir, surmonter quand on est au Nigeria ? On imagine par exemple que la corruption est un gros problème. Quand vous étiez à la tête de Schneider Electric précédemment et aujourd'hui de Greenelec, votre entreprise, est-ce que vous avez eu à affronter ces questions-là ?
Oui.
Est-ce qu'on vous a demandé des sous de table, des enveloppes, etc. ?
Oui, régulièrement. Mais donc, ce que je peux dire, c'est que j'ai engagé Schneider Electric dans la voie de l'éthique, et donc nous avons fait notre certification anti-corruption, donc pour que l'ensemble du personnel soit sensibilisé sur ces sujets de corruption, parce que bien entendu le dirigeant peut être lui très sensible et impliqué et s'impliquer dans la lutte anti-corruption. Encore faut-il que ses collaborateurs le suivent. Et donc, certification anti-corruption, et bien entendu, à Greenalec, j'adopte la même attitude. Et on arrive à développer un business sain et crédible. Enfin, la corruption ne peut pas permettre à une entreprise de développer un business durable.
Donc, pourquoi?
Parce que tôt ou tard, l'entreprise est confrontée à des enquêtes. Pour moi, c'est extrêmement dangereux de s'engager dans la corruption, que ce soit avec des politiques ou à quelque niveau que ce soit. Pour qu'une entreprise s'inscrive dans la durée, il faut et donc ne soit pas exposée au risque. Voilà, il faut absolument être propre, même dans un pays comme le Nigeria. J'ai beaucoup d'exemples à ce titre-là.
L'élection de Buhari en 2015 a suscité beaucoup d'espoir dans le pays, comme sans doute un certain nombre d'élections au Nigeria, mais celle-ci en particulier. Quel bilan vous faites de la présidence de Buhari?
Alors, on pourrait penser que son action n'a pas été très positive parce que les choses ont mis beaucoup de temps à se mettre en place. Et il lui a fallu plus de 6 mois pour avoir un gouvernement en place. On n'est pas certain que la lutte contre la corruption, qui a été son grand cheval de bataille, soit réellement une réussite.
Vous, votre impression d'entrepreneur sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de changement majeur entre avant et après sur ces sujets-là de la corruption, par exemple ?
Dans les faits, aujourd'hui, non. Il y a autant de sollicitations qu'il y avait.
C'est-à-dire, vous, à Greenalec, vous êtes régulièrement soumis à ces demandes. Comment ça se passe ?
Vous savez, ça se passe à différents niveaux. Déjà, pour avoir certaines affaires, on vous sollicite. Pour obtenir vos paiements, il faut également, pour que le dossier passe d'un bureau à un autre, on vous sollicite.
Là que encore. Ce soit dans l'administration ou dans le privé?
Oui. Et puis après, sur le plan des taxes, des impôts, de l'immigration, les douanes, c'est ce qui se passe au niveau des douanes est parfois extrêmement surprenant.
Par exemple,
des produits sur lesquels il n'y a pas de droits de douane. Prenons des panneaux photovoltaïques qui sont des éléments d'installation très critiques pour le Nigeria et pour lesquels il n'y a pas de droits de douane. Le douanier va vous convaincre que votre produit ne correspond pas aux spécifications et que donc il ne correspond pas au code douanier et que en conséquence vous devez payer des droits de douane. Et après, il vous dit, bon, on peut s'arranger, on peut trouver, je peux vous arranger votre affaire.
Et malgré ça, finalement, votre entreprise, ou Schneider Electric avant quand vous le dirigiez, oui. Affiche de belles performances, une belle solidité, c'est-à-dire malgré toutes ces difficultés-là?
Oui, donc, il y a fort heureusement, quand même, de nombreuses entreprises au Nigeria qui se battent aussi contre la corruption, donc des entreprises comme Total, comme Lafarge, enfin pour citer des entreprises françaises, mais également des Nestlé, des Guinness ou dans le pétrole, des entreprises américaines comme ExxonMobil, etc. Toutes ces entreprises essayent quand même de développer
si elles restent, c'est parce qu'elles y gagnent beaucoup d'argent, c'est ça? C'est ça que j'essaie de savoir, parce que pourquoi on resterait dans un pays où il y a autant de difficultés?
Déjà, le potentiel, quand même, attire les entreprises. Les entreprises qui sont présentes aujourd'hui bénéficieront de la croissance de demain. Mais effectivement, le Nigeria est quand même un pays qui permet de développer des affaires et des affaires profitables.
Alors, il y a un problème auquel fait face ce grand pays pétrolier que le président Buhari n'a pas réglé, c'est la pénurie des sécheresse qui est chronique. De nombreuses régions du pays sont affectées en ce moment même. Oui. Et c'était déjà le cas le 25 décembre dernier. Écoutez le reportage à cette occasion de Binta Diagne de la rédaction Afrique de RFI.
Thiou est chauffeur de taxi à Abuja. Ce mois-ci, il aura passé son temps à faire la queue devant des stations-service. Les files d'attente peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres.
La file d'attente est vraiment longue. Cela s'étend sur au moins 3 à 4 kilomètres. Je dors dans ma voiture pour ne pas perdre ma place. Les gens mangent et dorment dans leur véhicule. Et lorsque la nuit tombe, les gens s'enferment dans leur voiture et dorment. Les gens font la queue pendant 2 à 3 jours et ce n'est même pas une garantie pour obtenir du carburant.
Comme tant d'autres, ce chauffeur a vu ses revenus diminuer. Impossible pour lui de prendre des commandes de clients. Faute de revenus, impossible également de se rabattre sur le marché noir où le bidon d'essence peut coûter jusqu'à 400 naira le litre contre 140 dans les stations-service. Dans ce contexte, les spéculations vont bon train. Chaque acteur du secteur se rejette la responsabilité de cette crise. De son côté, la NNPC, la Compagnie Nationale de Pétrole, a annoncé qu'un plan a été mis en place pour livrer 300 millions de litres d'essence, de quoi, selon elle, répondre à une demande particulièrement élevée en fin d'année.
Comment expliquer rationnellement cette situation, Marcel Auchet ?
Alors, la difficulté, elle est de deux ordres. L'une est l'accès aux devises. Et donc, du fait de la baisse du prix du baril et de la production, le Nigeria a été confronté à un problème de disponibilité de devises. Et donc, a réduit volontairement ses importations. Le deuxième sujet est lié, lui, au problème des subventions sur ces produits pétroliers. Et donc, il y a des négociations entre la NNPC, donc la compagnie pétrolière, et les différents traders qui importent le produit raffiné. Et ça, donc, ça crée des situations de pénurie.
Frédéric Maury.
Alors, le pétrole nigérian attire souvent beaucoup d'attention, mais on imagine que le Nigeria est un pays plus diversifié économiquement que l'impression qu'il peut en donner. Oui. Est-ce que vous confirmez ça ? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité particulièrement porteurs dans ce pays ?
Oui, bien entendu, il y en a un qui a été abandonné, c'est l'agriculture. Le Nigeria était, je crois, au moment de l'indépendance, dans les années 60, le grenier de l'Afrique. Non seulement le Nigeria avait l'autosuffisance alimentaire, mais en plus exportait dans d'autres pays du continent. Et avec le pétrole, ils ont abandonné l'agriculture. Alors aujourd'hui...
Le président Buhari a annoncé que le pays serait autosuffisant en riz d'ici la fin de l'année 2018. Alors est-ce que ça marque un vrai retour des préoccupations agricoles ? Et est-ce que vous croyez à cette annonce ?
Bon, là, il faut peut-être être prudent sur l'annonce. En revanche, il y a une réelle volonté politique de relancer l'agriculture. Et d'ailleurs, la France... s'implique beaucoup pour encourager les entreprises françaises à venir sur ce secteur.
Donc l'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres secteurs aussi à relativement fort potentiel ou qui portent l'économie nigériane ?
Oui, bien sûr, il y a, je vais citer en premier quand même les énergies renouvelables où nous avons un savoir-faire et je pense que les entreprises françaises devraient être plus présentes qu'elles ne sont sur ce segment. Il y a tout le secteur des télécommunications, dans l'industrie, qu'elle soit automobile, donc avec des entreprises comme Peugeot, et donc ensuite toute la sous-traitance liée à l'activité industrielle de ce secteur. Il y a de nombreux secteurs économiques qui ont d'énormes besoins, la logistique, etc.
Marcel Auchet, nous allons continuer cette conversation dans la deuxième partie d'Écho d'ici Écho. D'ailleurs, pour l'instant, nous avons rendez-vous avec l'actualité. A tout de suite.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démontre les rouages de l'économie mondiale, aujourd'hui dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Aujourd'hui avec Frédéric Maury, nous recevons l'entrepreneur français Marcel Hochet. Marcel Hochet, vous êtes installé au Nigeria depuis de longues années. Vous nous avez expliqué que vous y étiez d'abord depuis 2004 pour le compte du groupe Schneider Electric et que vous aviez, après votre retraite, créé votre propre entreprise Greenelec. Comme son nom l'indique en anglais, cette entreprise produit de l'électricité verte et renouvelable. Nous avons aussi parlé dans la première partie de cette émission des pénuries d'essence que connaît le pays. L'énergie, c'est un problème pour toute l'Afrique et c'est une des clés du développement de ce continent, un sujet épineux pour tous les pays, Nigeria compris. Pourquoi, selon vous, le continent n'arrive-t-il pas à régler ce problème de pénurie chronique d'électricité qui est votre fonds de commerce en quelque sorte ?
Je pense que tous les pays ne sont pas au même niveau de développement de leur infrastructure électrique, parce que j'étais récemment au Ghana et le Ghana, j'ai pu constater que l'alimentation en électricité est quasiment stable, même si l'électricité est très chère. Je crois que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la fourniture est également relativement stabilisée. Donc il y a quand même des pays qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont un niveau d'électricité relativement satisfaisant. En ce qui concerne le Nigeria, pays dans lequel je vis, alors là, la situation est extrêmement difficile. Pour vous donner une idée de la situation, lorsque je suis arrivé en 2004, ce pays produisait 3 gigawatts. Et aujourd'hui, on est à 3,5 ou voire 4 gigawatts.
Donc, il en faudrait combien ?
Alors, il en faudrait au minimum 40. À comparer à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, produit 40 gigawatts pour 48 millions d'habitants, alors que le Nigeria, donc on est à peine à 4 pour près de 200 millions d'habitants. Voilà, ça donne le contraste entre ces deux pays.
Mais qu'est-ce qui explique cette situation ? Alors, au Nigeria.
Ce qui explique cette situation au Nigeria, bien entendu, c'est la situation conflictuelle entre les différentes ethnies, parce que vous avez pu constater que régulièrement il y a des attentats sur les pipelines qui alimentent les centrales électriques en gaz. Donc, en fait, il y a une capacité installée qui est bien en deçà de ce qu'il faudrait, mais qui est nettement supérieure à ce qui est produit. Pour 4 gigawatts, j'estime que la capacité installée est de l'ordre de 12 gigas. Donc, il y en a 8 qui ne sont pas produits.
Et la raison principale, vous dites, c'est les attaques sur les pipelines ?
Alors, c'est une partie de l'explication. L'autre, c'est l'obsolescence du réseau de transport. Ce sont des problèmes de maintenance au niveau des centrales. Et puis, c'est un autre sujet, une privatisation ou semi-privatisation qui n'a pas apporté les réponses nécessaires à la situation.
Ça, c'était des réformes, celles-ci dont vous parlez, qui avaient été mises en place par le président précédent.
Oui. Et Jonathan.
Mais qui, par exemple, ont plutôt fonctionné en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le fait de privatiser la production électrique. Oui. Vous dites au Nigeria, malgré les espoirs que ça avait suscité, aujourd'hui c'est un échec, ce choix.
Oui, c'est un, on va dire c'est un semi-échec. Le plus gros problème est que l'électricité vendue par les sociétés de distribution est vendue à un prix inférieur au coût de production. Donc, pour que ces sociétés puissent se développer et assurer leurs services, il faudrait qu'elles puissent investir, qu'elles puissent développer leur réseau d'infrastructures. Or, elles sont continuellement en situation de quasi-faillite, puisqu'elles ont un déficit sur le prix de vente qui devait être compensé par le gouvernement sous forme de subventions, mais les subventions tardent à venir et donc le système est complètement bloqué. Les sociétés de distribution qui, elles, reçoivent les fonds de collecte, l'argent des consommateurs, ne reçoivent pas ce qu'elles devraient recevoir. Elles ne peuvent donc pas payer la société qui vend l'électricité et qui doit payer elle-même les sociétés de génération. Donc les sociétés de génération ne peuvent pas payer les sociétés qui fournissent le gaz ou leurs fournisseurs. Le système actuellement est quand même relativement bloqué.
Et donc vous-même, Greenelec, comment est-ce que vous vous insérez sur ce marché? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Voilà, donc la solution pour résorber ce problème, c'est d'aller vers des solutions hors réseau. Et donc, tous les acteurs industriels ou résidentiels sont obligés de fonctionner sur des générateurs, qu'ils soient gaz ou diesel, pour avoir de l'électricité. Ce qui veut donc dire que c'est polluant, que c'est cher, qui pose également des problèmes de maintenance de ces générateurs à moteur thermique. Donc la solution que j'apporte avec Greenelec, c'est de fournir des systèmes hybrides. Hybride parce que le solaire fonctionne bien la journée mais pas la nuit. Donc la nuit, il faut soit du stockage avec des batteries, mais c'est relativement cher, ou donc avoir une source alternative. Le solaire amène déjà un premier niveau de réponse pour des systèmes donc hors réseau. Je travaille avec de nombreuses industries à qui je fournis du service déjà pour les accompagner à réduire leur consommation d'énergie, c'est-à-dire en apportant des solutions sur les gros consommateurs, les grosses charges de leur système. Donc on réduit la consommation. Ensuite, on apporte des systèmes hybrides qui vont stabiliser l'électricité et réduire la facture énergétique. On arrive à réduire la facture énergétique de 40 à 50% selon nos clients.
Est-ce que vous pensez que ce système de hors réseau, en fait, donc d'énergie, ce qu'on appelle aussi l'énergie décentralisée, où
oui,
chacun a son propre finalement système de génération solaire en l'occurrence,
oui,
est-ce que vous pensez que ça peut être une solution ou c'est juste un palliatif?
C'est l'avenir. Je pense que la troisième révolution industrielle tend à nous amener justement vers ce dont vous parlez.
La troisième révolution
décentralisée,
c'est la révolution de l'internet, des
Absolument.
Nouvelles technologies.
Tout à fait.
Et quel est le lien avec la production d'électricité?
Alors, si, parce que nous devons connecter les clients et nous le faisons donc au travers de plateformes informatiques. Là, je parlais de clients industriels. Nous développons également des mini-réseaux pour les zones rurales complètement isolées du réseau électrique. Ce sont des gens qui n'ont accès ni à l'eau, ni à l'électricité, mais ce sont des gens qui ont aujourd'hui le téléphone portable. Et le gros problème pour eux, la première demande, c'est la recharge du téléphone portable. Donc nous installons des mini-réseaux à partir de solutions solaires. Ensuite, il nous faut connecter ces gens, et il faut également collecter l'argent de la consommation d'électricité, et on le fait au travers de ces téléphones portables.
C'est les gens dont vous parlez quand on parle de zones rurales. Là, on a affaire à des populations quand même assez pauvres,
très pauvres.
Pouvoir d'achat très très limité.
Oui.
Une mini centrale dont vous parlez, ça coûte quand même, j'imagine, plusieurs dizaines de milliers d'euros, peut-être même plus. Comment
oui,
est-ce que vous arrivez à financer ça, en fait, hein?
Oui, donc là, c'est un problème d'entrepreneur, c'est un sujet effectivement économique, où avec l'appui des pouvoirs publics, nous investissons dans ces centrales de quelques centaines de kilowatts, mais qui arrivent à alimenter plusieurs milliers de personnes. Nous sommes actuellement engagés dans l'état de Kaduna, où nous allons connecter 30 000 personnes.
L'état de Kaduna, qui est où au Nigeria?
Alors, qui est dans le nord du Nigeria, où historiquement historiquement, Peugeot avait son usine. Et là, donc sur trois communautés, nous allons connecter 30 000 personnes. Donc, ils vont avoir accès à l'électricité, donc l'électricité pour les écoles, les dispensaires, les bâtiments.
Donc, c'est les États publics qui financent le projet, pour bien comprendre, et votre société. Et ensuite, vous vous remboursez sur les paiements des particuliers, c'est ça ?
Alors, partiellement, et Green Alec, donc avec des investisseurs privés, apporte le complément à l'investissement.
Mais c'est rentable tout ça, on imagine que c'est pas... Ou est-ce que c'est de l'action sociale ?
Non, c'est rentable. En fait, là encore, personnellement, ce que je souhaite, j'ai vu trop d'organismes, de bailleurs de fonds internationaux venir, que ce soit au Nigeria ou sur d'autres pays africains, avec des fonds, faire des installations, et une fois que l'installation est réalisée, tout le monde s'en va. Et finalement, on s'aperçoit qu'un an, deux ans, trois ans plus tard, il reste plus rien. Plus rien ne fonctionne. Et ça, je veux pas reconduire ça. Je veux vraiment que ce que nous faisons soit s'inscrive dans la durée, soit durable. Et donc, pour que ça soit durable, il faut que ça soit réellement un business, c'est-à-dire que ce que paient les villageois pour le service permette non seulement de payer l'investissement, mais également la maintenance, l'entretien et le développement, le déploiement de ces infrastructures électriques.
Marcel Hochet, l'énergie verte est souvent présentée comme une alternative aux énergies à partir de ressources fossiles, polluantes, etc. Là, vous nous présentez votre entreprise, cette énergie verte, non pas comme une alternative pour cause de réchauffement climatique et de problèmes liés à ce réchauffement climatique, mais comme une possibilité alternative qui permet de développer l'électricité et donc de développer le Nigeria.
Oui, tout à fait. Je pense que vous êtes informé sur les nouvelles technologies photovoltaïques avec des films qui seront bientôt sur les vitres des bâtiments. Chaque bâtiment va générer sa propre électricité et donc on est vraiment dans une ère vers de l'électricité décentralisée. Je pense que les grosses centrales de plusieurs centaines de mégawatts, c'est le passé. Et le solaire, je suis convaincu que c'est la technologie du futur et le Nigeria va faire un grand bond.
Mais vous imaginez que même dans une ville comme Lagos, on peut générer de l'électricité avec des films photovoltaïques sur les vitres?
Oui,
des immeubles.
Oui, il y a aucune raison. Nous installons déjà des réverbères solaires. Nous faisons beaucoup d'installations solaires dans cette région et dans la région de Port-Harcourt où pourtant l'ensoleillement est moins important. Enfin, je compare souvent le Port-Harcourt avec la Bretagne dont je suis natif où il pleut beaucoup et pourtant, les systèmes solaires fonctionnent. Donc, je suis convaincu de l'avenir de cette technologie. Et d'ailleurs, le gouvernement nigérian l'a bien compris. Nous travaillons avec eux et ils souhaitent développer 3000 mégawatts de solaire hors réseau dans les trois ans qui viennent. Donc, c'est 3 gigawatts comparé aux 3 gigawatts produits aujourd'hui à partir d'énergies fossiles.
Marcel Hochet, vous êtes le grand invité de l'économie RFI. Jeune Afrique. Avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous parlons du Nigeria, le pays où vous travaillez, où vous avez créé votre société, Green Elec. Il y a un autre pays dans la région pour lequel le pétrole est important. On a déjà souligné que le Nigeria était le premier producteur africain de brut. Eh bien, cet autre pays, c'est l'Angola, qui vient de décider de laisser flotter sa monnaie, le Kwanza. Écoutez ce dossier signé Olivier Roger du service économique de RFI.
Le Banque nationale d'Angola n'en va administrativement desvalorizar a moeda.
Ce n'est pas une dévaluation, annonce prudemment José de Lima Massano, le gouverneur de la Banque centrale. C'est une dépréciation du Kwanza que vont subir les Angolais. Le Kwanza va flotter librement, mais dans une marge de fluctuation, et le cours dépendra des ventes de devises organisées par la Banque centrale. Une façon de faire reposer sur le marché la chute de la monnaie que tout le monde prévoit. Car le Kwanza est surévalué, il se paye quatre fois plus cher au marché noir qu'au marché officiel. et le pays est à court de devises. La chute risque donc d'être brutale, 40% selon les plus pessimistes. Les patrons angolais qui importent l'essentiel des produits qu'ils consomment ne sont pas ravis. José Severino de Moraes, président de l'Association des industriels angolais.
Cette mesure était prévisible, mais elle arrive déjà bien tard. Maintenant, l'une des conséquences, c'est que les produits importés, dont le pays dépend en grande partie, seront plus chers. Et ils vont l'être encore davantage si l'on tient compte de la nouvelle politique fiscale, avec les droits de douane et les autres taxes qui augmentent. La hausse des prix est donc inévitable.
Quant aux consommateurs, ils vont devoir affronter un choc inflationniste.
Nous avons proposé une politique de réduction des coûts, notamment pour les produits de première nécessité. Il s'agit d'éviter de pénaliser les familles défavorisées s'il y a une trop forte dépréciation monétaire. Par exemple, il faut empêcher que sur ces produits de base, les commerçants appliquent des marges de 50%.
La potion risque d'être amère, mais elle est inévitable. L'Angola exporte essentiellement du pétrole dont les cours restent faibles.
Olivier Roger du service économique de RFI, une question de Frédéric Maury.
Alors on le voit là dans le cas de l'Angola, mais vous l'avez connu aussi au Nigeria, les chocs monétaires dans certains pays africains peuvent être assez violents. Et avant de parler de ce point précisément, juste se tourner vers le franc CFA, puisqu'il y a beaucoup de débats qui autour du franc CFA, et du côté positif selon certains et négatif selon certains de cette monnaie. Quel regard vous portez-vous sur le franc CFA et sur son avenir ?
Je suis assez convaincu de la pérennité de la monnaie franc CFA. Je pense qu'on fera toujours ce qu'il faut pour maintenir le franc CFA, compte tenu des relations importantes entre la France et les pays d'Afrique francophone. En revanche,
Est-ce que vous pensez utile d'un point de vue économique ou efficace d'un point de vue économique ?
Je pense que c'est utile. Et efficace, j'en suis moins sûr, mais je pense que la France a intérêt à maintenir le franc CFA, compte tenu que de nombreux pays étrangers cherchent à nous tailler des croupières dans ces pays, citer que les Chinois ou autres qui sont intéressés par les matières premières de ces pays. Donc je pense que la France a un grand intérêt.
Donc vous confirmez l'idée que finalement le franc CFA c'est une manière de conserver un pré carré français en Afrique.
Tout à fait.
Et dans le cas de la monnaie du Nigeria, par exemple la Naira qui a perdu beaucoup de sa valeur, est-ce que ça a un impact très lourd pour un investisseur ou un entrepreneur ?
Ah oui, complètement, oui. Parce que je le disais déjà tout à l'heure, le pays a été confronté à une pénurie de devises. Donc lié à la faiblesse des exportations de pétrole, et puis donc qui a conduit aussi à la dépréciation de la monnaie. Et donc le fait que la monnaie ait perdu 50% de sa valeur a quand même perturbé énormément l'économie. On vient de passer 18 mois où les affaires étaient extrêmement difficiles. L'environnement du Nigeria est déjà compliqué, mais là, il y a eu un niveau de difficulté accru. Le paiement des importations est devenu très difficile. Et il a été difficile aussi de répercuter cette hausse auprès des différents donneurs d'ordre. Donc l'ensemble de la chaîne sur le Nigeria a été extrêmement perturbé, sans parler des populations qui ont subi de plein fouet cette dépréciation de la monnaie. Parce que tout s'est renchéri dans le pays, sans que les salaires soient pour autant augmentés dans les mêmes proportions. Donc il y a eu une perte de pouvoir d'achat pour le peuple nigérian. Et pour les entreprises, ça crée beaucoup de difficultés.
Dans ce système économique et financier nigérian, et comme dans tous les systèmes économiques et financiers, il y a un rouage important, c'est le rouage bancaire. Le précédent gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Sanusi Lamido, avait engagé un mouvement de nettoyage de ce système bancaire, d'organisation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que les banques nigérianes sont mieux gérées, mieux capitalisées, moins corrompues ?
Oui, absolument. Enfin, oui, je pense qu'il y a eu, sous l'impulsion du gouverneur Sanusi Lamido, un grand nettoyage dans les banques, et qui a conduit d'ailleurs à l'éviction de nombreux dirigeants et à un assainissement du système bancaire dans le pays. Alors, néanmoins. Il y a eu encore de nombreux écarts sur des prêts non solvables. Enfin, il y a eu encore tout récemment, dans le courant de l'année 2017, un assainissement par le gouverneur Godwin Emifele pour assainir encore plus cette situation du système bancaire. Et quelques banques ont subi des pénalités relativement importantes.
Pour vous, entrepreneur établi au Nigeria, est-ce que c'est un problème cette question bancaire, est-ce que vous savez où vous mettez les pieds quand vous placez votre compte dans tel ou tel établissement ?
Il y a 25 banques au Nigeria, alors qu'il y en avait 90 lorsque je suis arrivé en 2004. Donc il y a eu un assainissement relativement important avec un minimum imposé de capitaux propres. Donc de ce point de vue-là, le système bancaire est quand même relativement fiable. À ma connaissance, il n'y a eu que une banque dernièrement qui a été liquidée. Autrement, les autres banques ont fonctionné normalement. Alors maintenant, pour un entrepreneur comme Green Alec, la difficulté est l'accès au crédit. Il n'y a pas dans ce pays pour des entreprises de petite ou moyenne taille de facilité de trésorerie. Vous devez toujours avoir la trésorerie nécessaire pour assumer vos obligations.
Vous avez parlé tout à l'heure de 18 mois difficiles au Nigeria. On rappelle que le Nigeria a connu même une année de récession. Hein. Oui. Aujourd'hui, les chiffres sont un peu meilleurs, même si ça n'est quand même pas extraordinaire. On parle d'un peu moins de 2% de croissance, je crois. Est-ce que vous sentez cette reprise du Nigeria ?
Oui. Écoutez, donc vous le savez aussi, je suis conseiller du commerce extérieur de la France. Nous nous réunissons environ toutes les 5-6 semaines. Et tout au long de l'année, en tout cas sur le premier semestre de 2017, nous constations tous d'énormes difficultés pour les entreprises, que ça soit pour finaliser des contrats, que ça soit pour obtenir les paiements des clients ou pour l'accès aux devises pour payer les fournisseurs étrangers. On a vu sur le troisième trimestre une certaine amélioration, enfin ou une stabilisation, une légère amélioration. Et lors de notre dernière réunion de décembre, donc il y a tout juste un mois, les intervenants commençaient à annoncer une amélioration et avoir des perspectives pour 2018 qui sont nettement meilleures que ce qui a pu être en 2017.
On parlait tout à l'heure de l'Angola, Marcel Auchet. Est-ce qu'on peut considérer que l'Angola et le Nigeria ont un peu le même destin, ceux deux pays potentiellement très très riches, mais où le niveau de développement reste faible et voué à le rester ?
Je connais moins l'Angola. Pourtant, j'étais responsable de ce pays pour Schneider Electric, mais il y a déjà de nombreuses années. J'y suis pas retourné depuis. Néanmoins, je jette souvent un regard sur l'Angola parce que il y a une sorte de compétition avec le Nigeria en termes de production pétrolière. Mais je crois que la comparaison s'arrêtera sur cette compétition de production.
Ils boxent pas dans la même catégorie.
Je pense qu'ils ne sont pas dans la même catégorie en termes de population, en termes de ressources naturelles. Le Nigeria a un potentiel de ressources naturelles énorme. On parle bien sûr du pétrole. Je parlais de l'agriculture, mais il y a également un potentiel extrêmement important avec les mines, etc. La population elle-même est une richesse extrêmement importante pour le Nigeria. Je voudrais juste donner une image. Quand on parle de Lagos, le PIB de Lagos est égal à celui du Cameroun, plus celui de la Côte d'Ivoire, plus celui du Sénégal. Ces trois pays représentent le PIB de la ville de Lagos. Et donc, ce que je veux dire, c'est que avec la croissance démographique, il y a un potentiel qui est nettement plus important que ce peut projeter l'Angola.
Eh bien, c'est sur cette image surprenante, Marcel Hochet, que se termine cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir confié vos analyses et votre expérience au Nigeria. Jeune Afrique publie demain dans ses colonnes les meilleurs extraits de vos propos. Vous pouvez podcaster cette émission sur l'application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.